Vous êtes bien à l'écoute de Radio France Internationale. Il est 6h30 à Paris et à Kigali. Une heure de moins à Yaoundé. Et bonjour Nemo Ampis.
Bonjour Jeanne, bonjour à tous.
Et à la une de votre journal, pas d'indices graves et concordants contre Agathe Habyarimana.
La veuve de l'ancien président rwandais, visée depuis 2008 par une enquête en France pour son éventuel rôle dans le génocide des Tutsis en 1994. La conclusion des juges, qui estiment qu'elle n'a pas non plus tenu de discours de haine ou d'appel au massacre. Des menaces et des insultes, voilà ce que disent avoir subi hier les avocats de Succès Masra lors de la première audience de leur client, accusé d'incitation à la violence. L'ancien premier ministre tchadien qui, dans ce contexte, a refusé de répondre aux officiers de police. Il doit être entendu par le procureur ce matin. La 53e fête de l'unité au Cameroun, le président Paul Biya doit présider à Yaoundé le défilé militaire et civil, alors que des violences persistent, notamment dans la partie anglophone du pays et sur fond de vives tensions politiques à 5 mois maintenant de la présidentielle. Tensions politiques également en RDC. Le parti d'opposition Ensemble pour la République dénonce un harcèlement à l'encontre de son chef Moïse Katumbi, des abus de pouvoir de la part du régime de Félix Tshisekedi, même devenu un danger public selon le parti. Dans 10 minutes, juste après le journal, place au sport. La décision a été rendue vendredi dernier selon des sources proches du dossier. Les investigations en France contre Agathe Habyarimana sont désormais closes. La veuve de l'ancien président rwandais Juvénal Habyarimana n'est pas mise en examen. Les juges en charge de l'enquête assurent que les témoignages à charge pour un éventuel rôle dans le génocide des Tutsis en 1994 sont contradictoires, incohérents, voire mensonger. Alexandra Branjon.
Dans une ordonnance datée de vendredi, les juges chargés du dossier concluent qu'il n'existe pas à ce stade d'indice grave et concordant contre Agathe Habyarimana, qu'elle ait pu être complice d'actes de génocide. Si la rumeur est tenace, poursuivent les juges, elle ne peut faire office de preuve en l'absence d'éléments circonstanciés et concordants, écrivent-ils. Les enquêtes sont désormais closes sans que la veuve de l'ancien président n'ait été mise en examen. Agathe Habyarimana a été visée depuis 2008 par une enquête en France pour complicité de génocide et de crimes contre l'humanité, une enquête ouverte après une plainte du collectif des partis civils pour le Rwanda. Âgée de 82 ans, elle échappe à ce stade à un procès. Cette décision intervient alors que le parquet national antiterroriste a saisi la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris en septembre dernier en vue de sa mise en examen. Une audience est d'ailleurs prévue ce mercredi 21 mai.
Alexandra Branjon est l'avocat de la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme, a déploré l'absence de mise en examen d'Agathe Habyarimana alors que selon lui, il existe des éléments à charge, je cite, largement suffisants. Vous entendrez également ce matin sur RFI l'avocat d'Agathe Habyarimana pour qui il est temps que le non-lieu qui s'impose pour sa cliente soit prononcé au plus vite. Un cinquième jour de garde à vue au Tchad pour l'ancien premier ministre Succès Masra, le président du parti d'opposition Les Transformateurs, arrêté vendredi matin à son domicile de N'Djamena, accusé d'incitation à la haine et à la violence après des affrontements intercommunautaires entre éleveurs du sud du pays qui ont fait plus de 42 morts. C'était mercredi dernier. Hier s'est tenue une première journée de procédure judiciaire au cours de laquelle Succès Masra devait être entendu, mais après de multiples confusion, il doit être entendu ce matin par les enquêteurs. RFI N'Djamena, Victor Moria.
Bandits, osez entrer si vous êtes des hommes. C'est ce qu'aurait lancé un agent de la coordination de la police judiciaire aux avocats de Succès Masra qui se présentaient devant le bâtiment où devaient être auditionnés leurs clients. Le collectif, composé d'une vingtaine d'avocats, explique avoir été menacé, insulté et surtout éconduit alors qu'il souhaitait venir assister à la première audience de l'ancien Premier ministre par les enquêteurs. Pendant ce temps, à l'intérieur, Succès Masra refuse de répondre aux questions des officiers de la police judiciaire en l'absence de ses avocats. Face à ce qu'il qualifie d'incident majeur, la défense demande et obtient un report de l'audition. Et ce matin, la procédure judiciaire devrait pouvoir commencer. Le président des transformateurs devra notamment justifier d'un audio enregistré en mai 2023 dans lequel il appelle à l'autodéfense des populations chrétiennes du sud du pays. Un appel que les autorités qualifient aujourd'hui d'incitation à la haine et désignent comme responsable des violences intercommunautaires de la semaine dernière. Victor Morian, N'Djamena, RFI.
C'est un contentieux territorial qui date de depuis plus d'un demi-siècle entre le Gabon et la Guinée équatoriale. Libreville et Malabo revendiquaient tous deux, et depuis le début des années 70, leur souveraineté sur l'île de Banié, moins d'un kilomètre carré, ainsi que sur les îlots de Cocotier et Conga, potentiellement riches en pétrole et en gaz. Et hier, la Cour internationale de justice, plus haute juridiction des Nations unies, a tranché et donné raison à la Guinée équatoriale. Le Gabon estime que l'instance lui reconnaît une partie du territoire actuel de la Guinée équatoriale. Libreville dit prendre acte et appelle à de nouvelles négociations avec Malabo. Ce matin, l'opposant gabonais Alain-Claude Bilibinzé est notre invité. Il revient sur cette affaire et juge que la décision de la CIJ est, je le cite, une catastrophe. Vous retrouvez plus de détails sur ce sujet également sur notre site internet rfi.fr. Mardi 20 mai, jour de fête nationale au Cameroun. Ce n'est pas, contrairement à beaucoup d'autres pays du continent, l'accession à l'indépendance qui est célébrée ce jour, mais plutôt la fin du système fédéral, un désir d'unité souvent éprouvé au fil des décennies et qui, cette année encore, pour le 53e anniversaire, est nourri de vives tensions, notamment sur le terrain politique. Polycarpe Samba.
Des tensions d'autant plus perceptibles que l'on approche de l'élection présidentielle. À 5 mois de cette échéance, la classe politique, pouvoir comme opposition, donne l'impression d'être plongée dans un brouillard. Il y a d'un côté celui du pouvoir, les questions autour de la possible candidature du président Paul Biya à sa propre succession. À 92 ans révolus, dont 43 déjà passés au pouvoir, une partie de l'opinion s'interroge sur l'opportunité d'une telle candidature. Certains pressent bruyamment le président à passer la main, là où d'autres, en sourdine, y compris au sein du RDPC, espèrent qu'il se mettra en retrait. Paul Biya, entre courtisans trop enthousiastes qu'il appelle à se représenter, et cette fronde sourde et les impatients de son propre camp, entretient toujours le mystère sur ses réelles intentions. Du côté de l'opposition, c'est les mêmes incertitudes. Si de nombreuses candidatures sont d'ores et déjà déclarées, de grosses hypothèques subsistent sur les candidatures des principaux opposants au régime. La candidature de Maurice Kamto du MRC est chahutée par un débat autant politique que juridique. Cabral Lévy du PCRN n'a guère plus de garanties lui aussi, son parti étant divisé entre deux factions antagonistes dont l'une a apporté son soutien à Paul Biya. Les nombreux autres candidats clament tous la nécessité d'une candidature consensuelle de l'opposition, mais ne semblent s'accorder ni sur les modalités de sa désignation, encore moins sur le programme du candidat. Polycarpe Samba, Yaoundé, RFI.
Et j'ajoute que le président Paul Biya doit, comme chaque année, présider le défilé militaire et civil à Yaoundé ce mardi. Il est 5h37 à Kinshasa. Le parti Ensemble pour la République en colère en République démocratique du Congo. Le principal parti d'opposition évoque les récentes perquisitions militaires dans les propriétés de son président Moïse Katumbi, des refus de passeport et d'autres privations. Le parti Ensemble pour la République qui pointe du doigt ce qu'il considère être des abus du régime du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Son secrétaire général, Dieudonné Bolenge Tenge, était face à la presse hier et a appelé le pouvoir à décrisper le climat politique. Je vous propose de l'écouter.
Ensemble pour la République déplore et rappelle plusieurs faits qui témoignent du harcèlement à l'endroit de notre président national, dont les autorités tiennent à tout prix à dégrader l'image dans l'opinion. Et comme vous le savez, tous ces cas d'abus de pouvoir et tant d'autres actes de barbarie commis à l'encontre de notre président national et d'autres leaders de l'opposition témoignent de la décadence de ces régimes qui exposent des paisibles citoyens à l'arbitraire. Qu'est-ce qui ne va pas dans les chefs des autorités de ces pays ? Ensemble pour la République regrette qu'au lieu d'œuvrer à poser les jalons de la paix et de la réconciliation des Congolais, consolider l'unité nationale pour relancer la reconstruction du pays, le régime au pouvoir ne s'investit que dans l'indexation des boucs émissaires et la création de conflits. Par ces actes répétés, le régime de Félix Tshisekedi est devenu un danger public.
Dieudonné Bolenge Tenge, secrétaire général d'Ensemble pour la République au micro RFI de Pascal Moulégua. La RDC ou la commission spéciale du Sénat demande à auditionner Joseph Kabila. La chambre haute du Parlement congolais a été saisie par la justice militaire afin de lever l'immunité de l'ancien président en vue de poursuites. Jeudi dernier, les sénateurs ont décidé la mise en place de cette commission pour se pencher sur ce dossier. Commission qui a auditionné ce lundi l'auditeur général des FARDC avant une séance de questions-réponses. Et donc, ce mardi, c'est le principal concerné, Joseph Kabila, qui est invité par le président de la Chambre à une séance de travail. Elle doit remettre son rapport d'ici mercredi soir. Justice en Tanzanie. Ce lundi, Tundu Lissu a comparu devant un tribunal de Dar es Salaam pour une audience préliminaire. Le chef de l'opposition arrêté en avril dernier et qui doit répondre de deux chefs d'accusation, publication de fausses informations en ligne, mais surtout trahison. Pour cela, le président du parti Chadema risque la peine de mort. Le procès de Tundu Lissu a finalement été ajourné au 2 juin prochain. Correspondance régionale depuis Nairobi, Gaël Alex.
C'est à la demande du bureau du procureur que le procès de Tundu Lissu a été ajourné. Le ministère public estime avoir besoin de plus de temps pour enquêter sur les faits de trahison. Délai accordé par la cour qui n'a pas caché son impatience et a demandé au procureur d'accélérer le processus. C'était la première fois hier que Tundu Lissu est apparu en public depuis son arrestation en avril. L'opposant a décidé de faire de cette audience une tribune. Sur son t-shirt, on pouvait lire « Pas de réforme, pas d'élection ». Ce sont ces critiques du système électoral qui ont valu à Tundu Lissu son arrestation. Son parti, Chadema, a été exclu des élections générales prévues en octobre car il n'a pas signé le nouveau code de conduite électorale qu'il estime trop propice à la manipulation. D'ici la reprise des audiences, Tundu Lissu reste en détention provisoire. Son entourage, qui dénonce un procès politique, s'est inquiété hier de l'impressionnant dispositif policier autour de l'opposant. Tundu Lissu est détenu à la prison de sécurité maximale d'Ukonga. Gaël Alex, Nairobi, RFI.
J'ajoute que la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan a interdit lundi aux observateurs étrangers de venir s'immiscer dans les affaires du pays après l'arrestation notamment de l'avocate kenyane Martha Karua, expulsée à son arrivée à l'aéroport de Dar es Salaam ce dimanche. Et puis à Madagascar, le secteur minier tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme dans une lettre ouverte adressée à l'État. La Chambre des mines interpelle fermement les autorités sur l'urgence de redynamiser le secteur, jugé stratégique pour l'économie du pays. L'organisation dénonce l'inertie de l'État face au blocage réglementaire et administratif qui freine depuis des années l'activité exploratoire et extractive dans l'île et la maintiennent informelle. À Antananarive, les précisions de Sarah Teto.
Nous n'avons plus le luxe du temps, tense la Chambre des mines dans son communiqué. Malgré leur potentiel, les sous-sols malgaches restent largement sous-exploités. Le gel des permis miniers depuis plus de 15 ans aurait ainsi paralysé de nombreux projets d'exploration et fait fuir les investisseurs étrangers. Le communiqué déplore également une gouvernance confuse et arbitraire qui prive l'État, tout comme les citoyens, des bénéfices réels liés à l'exploitation des ressources naturelles, ainsi que des règles qui changent, je cite, au gré des humeurs administratives et politiques. Résultat, de nombreux projets sont à l'arrêt, les investissements étrangers se raréfient. Pour enrayer cette dynamique, la Chambre des mines formule plusieurs recommandations, l'abandon des pratiques administratives qui favorisent l'informel, le rétablissement de la confiance des investisseurs, une meilleure redistribution des retombées économiques et le renforcement des institutions de régulation. Avec cette lettre ouverte, la Chambre affirme à RFI vouloir remuer l'administration et tendre une perche aux dirigeants afin de s'extirper une bonne fois pour toutes de ce bourbier. Le secteur minier peut devenir le moteur du redressement économique de Madagascar ou, à défaut, dit-elle, le symbole d'une nouvelle occasion manquée. Sarah Teto, Antananarivo, RFI.
7h43, Antananarivo.
Afrique Matin sur RFI. Nemo en piste.
À suivre, reportage au Sénégal où une ONG vient en aide aux femmes touchées par la fistule obstétricale. Cette liaison qui fait parfois suite à un accouchement prolongé et fait changer les regards sur ce sujet resté longtemps tabou. Le coup de balai de la junte guinéenne dans le cadastre minier, c'est dans le dossier Afrique Éco. Alain-Claude Bilibinze, je vous le disais, est notre invité. Lui qui au Gabon a été le dernier premier ministre d'Ali Bongo revient sur l'exfiltration de la famille en Angola. Vous l'entendrez d'abord sur le contentieux territorial entre son pays et la Guinée équatoriale. Dans 10 minutes, c'est Maman, mais tout de suite les sports. Bonjour Antoine Grenier.
Bonjour Nemo.
Avec du football pour commencer, et ce mardi, un classico en République démocratique du Congo.
L'ASV Club de Kinshasa accueille le tout-puissant Mazembe au Stade des Martyrs dans le cadre des playoffs du championnat. Deux équipes en difficulté après 6 journées, des Dauphins 5e face à des Corbeaux 6e. Les deux équipes ont donc besoin d'une victoire pour se rapprocher des 3 premières places qualificatives aux Coupes africaines de clubs. Un classico important donc, mais qui pourrait se jouer une nouvelle fois dans un stade quasi vide. Olga Massango.
C'est pratiquement un match de relance pour les deux équipes, mais le fait de le programmer un mardi peut faire que le Classico ASV Club TP Mazembe puisse se jouer dans un stade presque vide. Ceci remet en question l'organisation de la Ligue, selon Jean Dedieu Kimpembe, secrétaire général de l'ASV Club.
Notre football est en train de perdre sa qualité quand on fait jouer un match avec le Mazembe, un jour ouvrable, les mardis. Nous ne voyons pas que les stades soient remplis à 50%.
Depuis quelques années maintenant, le public quinois a perdu tout intérêt à suivre le championnat congolais. Les raisons évoquées sont nombreuses. Héritier Indoula, chargé de communication du TP Mazembe, évoque ici l'absence des grands joueurs.
Au-delà que les matchs soient reportés, le calendrier qui est inexistant, c'est qu'il y a tous ces comptes. Comment il sera remboursé? Il y a toute cette base juridique qui n'existe pas en République démocratique du Congo. Raison pour laquelle, aujourd'hui, c'est difficile d'avoir de l'affluence. Au-delà de ça, nous n'avons plus de joueurs référence dans presque tous les clubs de la République démocratique du Congo. Pour nous-mêmes, les TP Mazembe, nous sommes en train de nous battre pour avoir des joueurs référence.
Conséquence, les matchs du championnat et même les derbies se jouent dans un stade des martyrs, au gradin presque vide. Cette situation constitue un manque à gagner pour la Ligue nationale de football qui doit sortir les trois équipes qui vont jouer les Coupes d'Afrique des clubs. Olga Masangu Kinshasa, RFI.
Football en Angleterre également, Antoine. Manchester City dos au mur.
Des Citizens dans une position inhabituelle, seulement sixième de Première Ligue au moment d'aborder l'avant-dernière journée. Omar Marmouche et City reçoivent un Bournemouth privé du Burkinabé d'Ango Ouattara. Les Citizens vivent une saison délicate en bagarre pour une qualification en Ligue des Champions. Après la défaite en finale de coupe face à Crystal Palace, la C1 est donc l'objectif majeur de Pep Guardiola à l'issue d'une saison blanche.
Nous avons bien joué en finale, mais pas assez pour gagner. Maintenant, nous avons deux matchs et quatre points à aller chercher pour être en Ligue des Champions. Tout le monde doit en avoir conscience. Cela fait 13, 14 ou 15 ans, je me rappelle plus, que Manchester City est en Ligue des Champions. C'est là où nous voulons être. Si nous n'y arrivons pas, c'est que nous ne le méritons pas. Alors nous jouerons la Ligue Europa, mais je ne pense pas à ça. Je suis concentré sur les deux victoires ou sur les quatre points pour se qualifier et finir troisième de Première Ligue. C'est notre objectif.
Manchester City Bournemouth, 19h temps universel. Dans l'autre match, Crystal Palace affronte les Wolves.
Et puis du cyclisme pour refermer ce journal des sports. Victoire française sur la quatrième étape du Tour du Togo.
Julien Amadori s'impose à Sokodé ce mardi. Cinquième étape, 128 km entre Sotoboa et Atapame.
Merci Antoine Grenier. Les principaux titres de ce mardi 10 mai 2025. Le président ukrainien pousse pour de nouvelles sanctions américaines contre la Russie, déterminante selon Volodymyr Zelensky sur la capacité de Moscou à poursuivre son invasion de l'Ukraine. Déclaration du chef de l'État ukrainien alors que Donald Trump a annoncé hier que Kiev et Moscou allaient démarrer immédiatement des négociations. Il l'a dit à l'issue d'un entretien téléphonique de plus de 2 heures avec son homologue russe. Vladimir Poutine a qualifié la conversation d'utile, sans toutefois accepter la récente condition des combats demandés par Washington. Le premier ministre israélien lui confirme qu'il a bien l'intention de prendre le contrôle de toute la bande de Gaza. Hier, l'armée israélienne a poursuivi son opération militaire terrestre, faisant une centaine de morts d'après des responsables palestiniens. Israël qui a aussi autorisé le passage de quelques camions d'aide humanitaire, une goutte d'eau dans l'océan pour le chef des opérations humanitaires de l'ONU. Alors que de leur côté, les dirigeants de 22 pays dont la France, le Canada et le Royaume-Uni ont qualifié de scandaleuses les actions du gouvernement de Benjamin Netanyahou. Tout de suite, le reportage Afrique. Au Sénégal, en Casamance et plus précisément dans la région de Kolda. Là-bas, une ONG fait de la prévention et accompagne également jusqu'à la guérison les femmes qui souffrent de fistules obstétricales. Cette lésion qui est provoquée par un accouchement prolongé qui peut être aggravée par une excision, voire quand la maman est très jeune. 500 000 femmes sont concernées dans le monde, dont la moitié en Afrique subsaharienne. C'est un reportage signé Gwendal Lavina.
À peine arrivés dans le village de Sarikanta, les équipes de l'ONG Tostan distribuent des brochures sur la fistule obstétricale aux habitantes. Parmi elles, Ochiam Balo, qui connaît déjà le sujet. Pendant près de 5 ans, après un accouchement difficile, cette femme de 41 ans a souffert des conséquences physiques et sociales de la fistule.
Je vivais isolée des membres de ma famille. J'avais honte de ne pas pouvoir retenir mes urines et de sentir mauvais. Mais mon mari ne m'a jamais haïe à cause de la maladie. Et contrairement à d'autres femmes, il m'a toujours soutenue. Aujourd'hui, je peux dire que le tabou est brisé, parce que tout le monde m'a vu guérir.
Une évolution dans le comportement au sein des communautés qu'a observé Penda Damso, une agent de mobilisation sociale qui intervient dans toute la région.
Le départ, il y avait de la honte. Voilà, les femmes, des fois, si la sensibilisation se termine, vous allez dans d'autres villages. C'est après qu'on vous interpelle pour vous dire que dans le village que vous avez quitté, il y a une femme porteuse de fistule.
Finte Boiro est le coordinateur de Tostan dans la zone sud du Sénégal. Lui aussi souligne l'importance de la prévention et l'accompagnement dans les soins.
Les capacités des femmes ont été renforcées. C'est pourquoi on a eu aussi à prendre en charge ces femmes victimes de la fistule obstétricale à travers le traitement, la réparation de ces femmes-là.
Une réparation qui prend du temps et sur laquelle le docteur Emmanuel Kasobwenge est spécialisé depuis plus de 10 ans. Le chef du service de chirurgie de l'hôpital régional de Kolda évoque sa prise en charge.
Elle est complexe, elle est multidisciplinaire, elle est sociale, elle est médicale, elle est économique. On nous les amène, on les consulte. S'il faut opérer, on les opère. C'est une chirurgie délicate, une chirurgie peut-être pas urgente, mais une chirurgie bon, parfois avec des échecs. C'est pas étonnant d'avoir une femme multi-opérée. Voilà.
Le médecin se réjouit tout de même de voir de moins en moins de femmes venir consulter pour une fistule obstétricale, grâce, selon lui, à la multiplication des structures sanitaires de proximité qui offrent aux femmes un suivi tout au long de la grossesse et après l'accouchement. Wendell Lavina, Kolda, RFI.
On vous en parlait hier matin déjà en Guinée. Des dizaines de sociétés se sont vues retirer leur permis d'exploitation et de recherche. Victime directe d'un grand ménage entrepris par la junte dans le cadastre minier. La plupart de ces sociétés sont guinéennes. Des opérations certes classiques mais qui posent forcément la question des conditions d'attribution de ces permis. Le dossier Afrique Éco avec Alexis Bédu.
Elle travaille dans la bauxite, les diamants, l'or, dans les latérites. Ces entreprises, bien souvent, ne développaient pas vraiment les concessions qui leur avaient été attribuées. Elles ne respectaient pas leurs engagements. C'est donc une opération classique pour Amadou Ba, directeur de l'ONG Action Mine Guinée.
C'est une opération régulière qui vise à assainir le cadastre minier et à libérer des places pour permettre aux investisseurs sérieux qui veulent mettre de l'argent avec de l'engagement pour exploiter les différentes ressources de notre pays.
Aucune explication officielle n'a été donnée par les autorités, mais la volonté de reprendre en main le secteur minier a été maintes fois répétée par le général Mamadi Doumbouya. Ces retraits interrogent tout de même sur les conditions d'octroi des permis. Ces entreprises avaient-elles les capacités techniques et financières, se demande Oumar Baritotia. Il est directeur de l'Observatoire des mines et métaux en Guinée.
Plusieurs permis ont été octroyés à des entreprises minières et que ces entreprises, après plusieurs années, continuent à détenir ces permis sans mener des activités concrètes sur le terrain. Donc, ce qui amène à des interrogations sur le respect de toutes les procédures légales et réglementaires liées au processus d'octroi des permis miniers à la République de Guinée.
C'est la Commission nationale des mines qui décide de l'octroi ou non d'un permis minier et certains en Guinée pointent des failles dans les conditions d'attribution. Si on regarde un peu plus près, on s'aperçoit que de nombreux promoteurs proches du régime d'Alpha Condé, président avant le coup d'État de 2021, ont été radiés. C'est le cas par exemple de Kebo Energy, présente dans la bauxite du côté de Bofa. La crainte, c'est que les entreprises qui remporteront les appels d'offres pour ces permis désormais libres soient des proches du CNRD aujourd'hui au pouvoir.
Il faut qu'on sache à qui on donne les titres, quelles sont les personnes physiques qui sont derrière les entreprises.
Amadou Ba.
C'est pour éviter que des personnes proches des différents régimes ne puissent en fait souscrire pour l'obtention des titres miniers. Cette exigence est un garde-fou que les États doivent utiliser pour pouvoir éviter des connivences, pour pouvoir éviter des conflits d'intérêts.
Une reprise en main du secteur qui peut aussi être vue comme un énième coup de pression sur certaines sociétés étrangères accusées par la junte de ne pas respecter leurs engagements sur la transformation locale du minerai.
Alexis Bédu pour le dossier Afrique Éco à retrouver, comme tous les autres, sur notre application RFI Pure Radio. Notre invité ce matin est Alain-Claude Bilibinzé, candidat malheureux à la dernière présidentielle au Gabon, également dernier premier ministre d'Ali Bongo. Il revient évidemment ce matin sur RFI sur l'exfiltration de la famille Bongo la semaine dernière en Angola. Mais Christophe Boisbouvier l'a d'abord interrogé sur la décision de la CIJ rendue hier sur le contentieux territorial entre le Gabon, son pays, et la Guinée équatoriale. Extrait.
savez, c'est une catastrophe, c'est une grosse déception. C'est un peu comme si on se retrouvait amputé d'un membre. Le Gabon a toujours revendiqué sa souveraineté sur ses îles et nous avons toujours tout fait en tant que nation pour demeurer unis sur ce sujet et nous allons continuer à être unis dessus. Pour l'heure, nous ne pensons pas faire polémique parce qu'il s'agit d'une question qui concerne la nation et dans ces sujets-là, il faut être rassemblés dans un premier temps.
Depuis 1972, l'îlot Mbagné est occupé par la marine gabonaise. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?
Non, elle n'est pas occupée. Cette île, elle est gabonaise. Si nous y sommes allés, c'est parce qu'on considère comme gabonaise. Si vous dites occupée et que j'accepte ce terme-là, ça veut dire que ce n'était pas à nous. C'est notre île. On y a fait jouer tous nos droits. On y est installé. Se passe là-bas des activités gabonaises. Maintenant, on va voir ce qui va se passer au vu de la décision qui vient d'être prise.
Est-ce qu'un accord à l'amiable peut être trouvé entre Libreville et Malabo ?
Écoutez, nous ne sommes pas des États qui, dans ce dossier, avaient privilégié la confrontation. Je crois que le sujet d'une discussion est toujours ouvert et on verra ce qui va se passer. Voilà.
Entretien complet entre Alain-Claude Bilibinzé et Christophe Boisbouvier à retrouver aux alentours de 7h45 et 8h45, heure de Paris, sur nos antennes. 5h55 ici à Paris dans quelques minutes. C'est RFI Matin qui démarre avec Marion Cazanov. Avant cela, l'humeur de Maman. Et Maman au Gondwana, il ne faut pas écouter ses voisins, mais plutôt les laisser parler.
Oui, un très très démocratique république, quoi que tu cherches, aussi compliqué que ce soit, eh ben tu le trouveras sans trop te fatiguer, parce que le Gondwana est extraordinaire, le Gondwana est riche et divers. Par exemple, dans notre beau pays, il y a toutes sortes de gens, tellement nombreux ces gens, que je ne pourrais pas tous les citer ici. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, eh ben je veux me pencher sur ces gens qui savent mieux que toi ce qui est bien pour toi. Ces gens qui sont dans ton entourage proche et lointain, c'est-à-dire tes voisins, tes cousins, tes frères, tes sœurs, tes oncles, tes tantes, etc. Cet entourage sait mieux que toi comment tu dois mener ta propre vie, mon ami. Quelle marque de voiture t'aurais pas dû acheter, par exemple ? Bah oui, toi aussi, avec tout l'argent que tu es supposé gagner, avec ton gros salaire de grand directeur, pourquoi tu roules toujours dans cette vieille France au revoir déglinguée, sans clim, sans Bluetooth, sans caméra de recul ? Ça ne va pas, non ? Regarde ton voisin d'en face. Regarde son gros 4x4, vitre fumée par buffle, V8 comme un honorable parlementaire. En quoi il te dépasse, ce voisin ? Tu es bac plus beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu parles anglais comme dans les films américains. C'est quoi ton problème ? Regarde comment tu es habillé. Regarde tes vieilles chaussures. Regarde ta maison. Non, mais t'exagères, hein ? T'es un grand quelqu'un. Comporte-toi en grand quelqu'un. Tous ces gens qui savent mieux que toi ce qui est bien pour toi, ils n'ont jamais vu ta fiche de paye. Mais ils savent que, c'est sûr, il n'y a pas de doute, vrai de vrai, au nom de Dieu, ils savent que t'as un gros salaire parce que t'as un grand but. Et puis les gens t'appellent boss. Et puis, pourquoi tu laisses ta femme se déplacer en taxi ? Pourquoi tu prends pas un chauffeur pour elle ? Les gens qui savent mieux que toi ce qui est bien pour toi ne sont pas contents de toi, mon ami. Et tes enfants ? Non, mais c'est pas possible. Pourquoi tu laisses ta fille s'habiller comme Rihanna ou Aya Nakamura ? Il faut que tu lui parles, hein. Regarde la fille de l'autre voisin, là. Elle est bien, elle. On ne la voit jamais. Il faut que tu fasses comme ton voisin. Et ton garçon, là. Pourquoi il joue pas au football, là, dans la rue, avec les autres garçons du quartier tous les après-midi? Ah, il fait du théâtre? Mais c'est quoi ça? Tu vas le gâter avec ça, hein? Laisse-le jouer au football, c'est un garçon. Même s'il n'aime pas ça, il va finir par aimer. Et puis on ne sait jamais, c'est peut-être un futur Lamine Yamal. Et puis d'abord, pourquoi tu es venu habiter ici, dans ce quartier pas très huppé? Regarde les autres directeurs, ils habitent tous là-bas dans le quartier en haut de en haut, le quartier où même les moustiques ont peur des vigiles et des barbelés. Va habiter là-bas. C'est quoi ton problème, toi ? Faut les écouter, mon ami. Écoute-les jusqu'au bout. Ça mange pas de pain, comme on dit au Gondwana. Tu les écoutes, puis tu fais ce que bon te semble. À demain.
Merci, Maman. Et à demain, Marion Cazanov. On vous retrouve pour le début d'RFI Matin. Bonjour.
Bonjour, Nemo. Bonjour à tous. Dans RFI Matin, donc, on reviendra sur cet appel. Trump-Poutine, le président américain, n'a pas obtenu de cesser le feu en Ukraine, mais des négociations vont démarrer entre Kiev et Moscou, assure-t-il. Israël veut prendre le contrôle de toute la bande de Gaza, déclaration du Premier ministre Benjamin Netanyahou hier, alors que son armée poursuit son opération terrestre dans l'enclave. On est en direct de Jérusalem dans quelques secondes dans le journal de Martin Guez.
Bonjour, c'est Juan Gomez. Au Tchad, quelles peuvent être les conséquences politiques de l'arrestation de Succès Masra ? L'opposant est accusé d'avoir diffusé un audio incitant à la violence en lien avec les récents affrontements intercommunautaires dans le sud du pays. Nous lançons le débat.
Appel sur l'actualité
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
À tout à l'heure sur RFI.
Ce mardi sur RFI.
Jusqu'où nous entraînerons les femmes de science au Sénégal ?
Autour de la question, Caroline Lachowski.
Elles sont hématologues, planétologues, géologues ou dans la tech. Quatre chercheuses d'exception partagent leur parcours avec les lycéennes de première scientifique du lycée Kennedy à Dakar. Émission 100% femmes de science, enregistrée in situ dans ce lycée public de jeunes filles à Dakar.
Autour de la question, tout à l'heure à 14h10 TU sur RFI.